Bonsoir.
Mesdames, Messieurs, bonsoir. Donc, nous vous remercions d'être présents. Moi, je suis Hubert Venin, professeur retraité de Sciences Po Bordeaux. Et j'ai écrit quelques livres aussi. Mais la vedette, ce soir, est Sébastien Durand, d'une autre génération. Et Sébastien Durand est chercheur au CEMC, qui est le Centre de recherche d'histoire moderne et contemporaine de l'Université de Bordeaux-Montaigne, et enseignant dans le secondaire et chercheur vaillant, multilingue, et vous verrez pourquoi c'est important. Le sujet est évidemment un peu tabou, et je dis pour cela, pour dire que j'ai déploré dans un livre qui s'appelait « Les tabous de Bordeaux » et dans un autre « Les tabous de l'extrême droite à Bordeaux » que l'université de Bordeaux ne se soit pas suffisamment, même pas du tout, penchée sur l'histoire des années 30, 40, l'après-guerre, en dehors des combats, de la résistance, bien entendu, tout cela a été bien étudié, Dieu merci. Mais sur les aspects, je dirais, tabous. Donc, nous avions fait un livre avec quelques collègues sur Albert Marquet. Les tabous de Bordeaux abordent le sujet de la collaboration. Mais il faut dire que, tu me contrediras peut-être, Sébastien, que Sébastien Durand est un pionnier. Et par conséquent, il défriche un sujet qui me paraît, sur le fond, vierge, en dehors de quelques allusions. Bien entendu. Et ce sujet, c'est de l'histoire économique mêlée à de l'histoire sociale, mêlée à de l'histoire militaro-politique. L'histoire économique, c'est original, un peu comme Philippe Dard à l'échelle nationale, il a beaucoup cherché, mais à l'échelle nationale, à l'échelle de Paris notamment, il scrute des actifs, il soupèse des actifs économiques et financiers et leur mise en jeu, leur remise en jeu ou leur mise en question par quelqu'un qui veut les prendre. Et nous verrons pourquoi dans un instant. De l'histoire sociale, ben justement, parce que ceux qui détiennent ces actifs financiers, immobiliers, industriels sont des Israélites, donc ils appartiennent à la communauté israélite. Et des enjeux politiques et militaires, parce que ceux qui veulent les prendre, ce sont des occupants allemands, étrangers, nazis, d'une part, mais avec un relais, qui est le relais de l'administration française, qu'on appelle le régime de Vichy. Avec deux phases, vous le savez, une phase plus modérée et une phase plus accentuée à partir de 1942. Qui a ses effets sur ses actifs, malheureusement. Alors, je voudrais dire tout de suite, je ne voudrais blesser personne. Nous allons apparaître comme des êtres froids, mais nous avons une pensée, bien sûr, pour les Israélites qui ont été ramassés par la police française et déportés, bien évidemment. Donc, nous allons parler des biens de ces Israélites. Et évidemment, nous pensons à eux, que les choses soient claires. Hein. D'ailleurs, le mot « macabre » évoque bien, je crois, le fait qu'un certain nombre de gens sont morts, qu'ils aient perdu leurs biens, à la limite, ils s'en moquent un petit peu. Bien. Donc, c'est un livre pionnier qui brise des tabous. Et avant d'entrer dans le débat, j'aimerais dire que Sébastien Durand a lu des archives originales. Originales parce qu'elles ont été défrichées de façon pionnière, je l'ai indiqué il y a un instant, mais aussi parce qu'il en a lu en allemand, Er spricht Deutsch. Et par conséquent, il les a lus en Allemagne. Voilà. Et par conséquent, il fait partie de cette minorité d'historiens français qui lit l'allemand. Et donc, c'est un ouvrage qui est incontestable au niveau de la mobilisation des archives, bien sûr. Tout ouvrage peut être contesté, mais je dis incontestable au niveau du dépouillement d'archives. Il n'y a pas de faute, de lacune dans ce domaine. Il a lu les archives de l'occupant aussi. Bien. L'occupant et post-occupant, puisqu'il y a des archives qui traitent de ce que deviennent ces gens occupants après la victoire, bien entendu, et la défaite de l'Allemagne. Bien. Donc, il fallait... Alors, moi, j'aimerais poser d'abord une question de vocabulaire, parce que je suis quelqu'un d'élémentaire. Que veut dire aryanisation? Que veut dire spoliation, avant d'entrer dans le vif du sujet? J'aimerais une définition technique, juridique, s'il te plaît.
Tout d'abord, merci, Hubert, d'avoir accepté de présenter, d'animer cette soirée. Merci à vous également. d'être présent ici. Effectivement, ce mot « aryanisation », c'est un mot qui n'est pas très beau en bouche, hein, qui est assez immonde à prononcer. C'est un mot qui vient de l'allemand dit « arisierung », qui veut dire littéralement « rendre arien ». Donc l'aryanisation, c'est quand vous possédez donc un bien juif, un bien meuble, un bien immeuble, et qu'il est littéralement mis dans des mains dites ariennes, selon tout un processus long et redoutablement efficace. Le mot de spoliation est une expression que l'on peut employer dans d'autres champs chronologiques, dans d'autres champs géographiques, et qui renvoie à un vol, mais à un vol massif. Juste un exemple, on peut par exemple parler de la spoliation des biens des Arméniens lors de leur génocide à partir de 1915 avec des meubles, des entreprises, jusqu'aux églises même qui leur ont été spoliées. Mais le mot d'aryanisation renvoie effectivement à cette spoliation de masse mise en œuvre par les autorités nazies en Europe occupée, avec le relais, l'appui décisif en France des autorités de Vichy qui non seulement ont appliqué les ordres, mais on y reviendra, à mon avis, vraisemblablement, on fait preuve de zèle en anticipant et même en faisant plus que ce qui avait été préalablement exigé d'eux.
Mais juridiquement, je me permets de le dire, mutatis mutandis, on a nationalisé les biens du clergé en 1791, Armel, 1792, je ne sais plus, 1791. C'est sur le même plan juridique, c'est une...
Le problème, c'est que
cette
confiscation prend un écrin complètement légal. Je pense en particulier à un vocabulaire en 1945 d'un juriste qui s'appelle M. Lyon-Camp, qui a parlé du vol légal. Et en fait, c'est des opérations qui sont menées avec des lois d'exception, qui sont les lois de Vichy, alors même que ce sont des opérations, effectivement, d'un point de vue humain absolument intolérable, mais elles ont à l'époque, je dis bien à l'époque, un cadre légal qui s'inscrit dans les lois d'exclusion, les lois de spoliation décrétées dans les cabinets des ministères, et notamment donc, les mercredis, lors de la réunion des ministres sous la férule de Pétain.
Très bien. Donc, juridiquement, on sait ce que c'est. Et ailleurs en Europe, en Allemagne, il y a déjà eu une aryanisation ?
Bien évidemment. Il y a eu, notamment concernant les entreprises, une antériorité qui est liée à des événements, notamment à la nuit de Cristal, les lois de Nuremberg, qui, dès novembre 1938, permettaient, encore une fois, donc, cette opération de vol.
Donc il y avait, entre guillemets, déjà une expérience.
Il y avait une forme d'expérience, exactement.
Dans la spoliation. Bien. Parfait. Donc, aryanisation des entreprises juives en Gironde, girondine. Alors, les communautés israélites à Bordeaux en 1940-42, c'est quoi ? Alors, quelle est sa puissance ? Est-ce qu'il faut céder aux fantasmes conspirationnistes de certains cercles d'extrême droite qui étaient actifs à Bordeaux dans les années 1890, à l'époque de l'affaire Dreyfus, ou encore actifs à Bordeaux et même des manifestations en janvier-février 1934. On en a eu ici, toutes les rues occupées par ici. Ne l'oublions pas, il n'y a pas qu'à Paris. Donc sur le pouvoir juif, sur le juif est partout, sur la toute-puissance juive, les forces occultes. Donc qu'est-ce que ça pesait économiquement et socialement à Bordeaux, cette communauté juive ?
Alors, il faut
négativement ou israélite positivement.
Il faut bien sûr déconstruire cette idée malheureusement tenace qui voudrait qu'une sorte de plutocratie construite par une communauté juive ultra-puissante, extrêmement argentée et influente. Bien évidemment qu'on va retrouver des banquiers juifs, mais il ne faut pas oublier que je pense que c'est un des points forts de mon travail, c'est de montrer que la plupart des spoliés, des aryanisés, étaient à la tête de petits métiers. Et ils faisaient vivre des petits métiers, on ne va pas les décliner, la liste est extrêmement longue, mais c'était des brocanteurs, c'était des vendeurs à la sauvette, c'était des forains, des brocanteurs.
Il y avait un peuple juif.
Pas
que des gros, donc.
Non, il y a effectivement une communauté extrêmement large qui à Bordeaux a une place capitale dans l'identité du judaïsme dans le sud-ouest. Ça, c'est un point qui est très important.
Et depuis l'époque, aussi. À peu près.
Oula.
Oui.
Ça remonte, j'ai l'impression de passer un concours, là.
Mais oui, c'est un concours, le jury est impitoyable.
Oui, alors, il y a eu différentes accélérations dans l'histoire, mais la présence remonte dès le 15e, 16e siècle. Et il y a eu aussi, malheureusement, des temps sombres dans l'histoire. Je pense en particulier à des différentes vagues de pogroms. Et il ne faut pas s'étonner de retrouver dans la région des Juifs, dont le nom des consonances russes en particulier.
Où,
donc, de ce point de vue-là, il y a eu... cette forte communauté donc, qui venait donc, de la péninsule ibérique,
voilà,
mais qui a,
oui.
ensuite, qui a ensuite été alimentée par des venues d'Europe centrale,
centrale.
Et orientale. Donc, ce qui fait qu'il y a,
ouais,
il y a un visage extrêmement, extrêmement varié.
Bon, alors, ce peuple, bon, bah, laissons-le tomber. Excusez-moi, mais on n'a rien à lui prendre. Donc, les riches et les moyens riches, c'est qui à Bordeaux en 1940-42? Donc, tu as parlé des banquiers. Est-ce que la banque était toute puissante? Est-ce qu'elle dominait la place? C'est un sujet qui m'est cher, l'histoire bancaire.
On parle des banquiers en dehors des banquiers de confession juive. Hein,
si, les banquiers israélites, oui. Est-ce qu'ils étaient puissants? Ils avaient été tentaculaires?
Là, je pense que tu es davantage mieux placé que moi pour y répondre.
Ah ouais.
Mais l'historien de la finance et de la banque que tu es. Alors, il y avait effectivement des grands noms, hein, je pense en particulier au Felsenart,
voilà, Felsenart,
au
oui.
Molina,
oui.
au Gomez-Vaez, mais, avec,
Gomez-Vaez,
mais
oui.
plutôt établi effectivement à Bayonne. Donc là, il faudrait plutôt réfléchir à une communauté bancaire. Ça n'a pas de sens, mais ouais. effectivement à des grands noms dans le sud-ouest aquitain. Oui, c'était des noms qui comptaient, ça, c'était clair.
Donc, il y avait des banquiers, mais globalement, tu dis dans le livre, donc, industriels, commerçants.
Alors, très peu de gros industriels. Quelques personnes dans le métier du négoce, très peu de courtiers, par exemple. Effectivement, dans le métier du commerce, dans le commerce du tissu en particulier.
Voilà, oui.
Là, il y a la proximité qui fait que, notamment, il y avait une colonne vertébrale très forte de la communauté juive et de leur intégration économique dans le tissu de la ville. C'était le cours de l'intendance, la rue Porte-Dijot, la rue Sainte-Catherine, où beaucoup de commerces, je pense en particulier aux vêtements, effectivement, à la fourrure aussi, ça me vient à l'esprit.
Dans le gros, le demi-gros, le détail?
En fait, il y avait une activité variée, mais dans les détaillants, essentiellement. C'est-à-dire qu'avec un contact direct avec la clientèle, d'ailleurs un contact direct qui va leur être enlevé dès les premières semaines de l'occupation.
Oui, ça, d'accord. Oui, oui. Donc, textile, banque, bon, très bien, ça me fait plaisir, la banque. Textile, bon, évidemment, le livre aurait dû comporter trois quarts sur la banque, mais je me contenterai de quelques pages. Et textile, et encore, alors, commerce...
Je pourrais multiplier les,
non, mais
les exemples.
Grande activité. Les 3-4 grandes. S'il faut leur prendre quelque chose, il faut bien savoir quelle dimension ils ont. Donc, le commerce, oui.
Le commerce, mais dans son acception le plus large, le commerce alimentaire, le commerce de bois, le commerce,
du bois,
tissu.
Oui. Ils n'étaient pas dans le vin.
Si,
ou les alcools,
ils étaient dans les vins et les alcools, notamment. Il y avait quelques courtiers, donc juifs à Libourne en particulier.
À Libourne, oui.
Mais
à Bordeaux, mais ce n'était pas les plus grands. Il était petit, quoi.
Ce qui est compliqué de se dire, c'est que pour avoir accès à ce genre de données, de savoir combien de personnes juives étaient courtiers, il aurait fallu avoir des fichiers. Et les syndicats qui étaient en poste à cette époque-là, ils avaient des fichiers. Mais heureusement, avant les années de guerre et d'occupation, ils n'avaient pas de fichiers où était mentionnée l'identité ni maçonnique, ni culturelle, ni religieuse, de ce point de vue-là. Donc, pour moi, ça aurait été un décompte très difficile à mener. Hein. Donc,
et dans l'industrie, non? Il n'y a pas de cheminée d'usine?
Il y avait
dans la Bastide qui sont vus à poser l'étoile jaune, non? Pas dans l'industrie.
Très peu de gros industriels. J'aurais pu aussi placer l'industrie culturelle. Il y avait quelques établissements cinématographiques qui avaient été alimentés notamment par des Strasbourgeois qui avaient été repliés. Donc ça participe, encore une fois, à l'augmentation de circonstances de la communauté juive dans la région, qui à Périgueux, qui à Libourne, qui à Bordeaux, des Alsaciens lorrains d'identité de confession juive qui sont venus ici. Et certains ont décidé d'y rester du fait de la présence d'une Alsace annexée.
Ouais.
Et ce qui a donc à la fois renforcé l'intégration économique de la communauté juive à Bordeaux. Et donc, par ricochet, ça a aggravé aussi l'ampleur des opérations de vol et de réquisition.
Bon, bon, on voit bien ce à quoi ressemble les communautés israélites à Bordeaux. Mais maintenant, il est temps de mettre nos bottes ou nos brodequins et d'aller dans la campagne. D'après ce que j'ai compris, mais tu vas publier un livre spécifique là-dessus, il y avait un juif tout petit inconnu qui s'appelait Rothschild aussi.
Ah oui, monsieur, non, mais ça, oui.
Oui, alors parle-nous des Rothschild. Que faisait-il, non pas à Bordeaux, mais un peu plus vers le nord?
Oui, c'est vrai que là, je me suis centré un petit peu sur Bordeaux, mais oui. Effectivement, le vin. Enfin, je pourrais presque reprendre les expressions.
Il a fait 100 pages dans sa thèse, hein, sur là-dessus dont tu peux parler, pas dans
le. Oui, mais c'est vrai que c'est.
Donne-nous un aperçu tout de même.
Oui. Alors, forcément, le nom de Rothschild est un nom qui claque aux oreilles des Bordelais et des Girondins, même si bon, la famille avait des parts importantes dans d'autres domaines d'activité en Europe. Mais pour ce qui est de la Gironde, le fait de posséder ces grands vins, ces grands crus classés de 1855, Lafite, Mouton en particulier, ce sont des vins bon, qui sont à la fois classés mais inclassables en tant que tels. Et il y avait vraiment une volonté de faire l'exemple. Et là où la position de l'historien est un petit peu délicate, c'est qu'avant de se prendre à leur bien, à leur entreprise, on va s'en prendre à leur identité, à leur nationalité. Et avant de mettre en c'est-à-dire qu'il va y avoir des procédures qu'on appelle des procédures de séquestre. C'est très fastidieux parce que c'est une procédure assez compliquée qui est liée à la déchéance de nationalité. Et donc là, j'ai pu avoir accès au journal officiel dès le mois d'octobre. Une série de décrets qui sont nommément consacrés à la famille Rothschild en général et à celle de Gironde en particulier, où nommément on les exclut de la communauté nationale, si bien qu'ils ne sont plus disposés donc d'avoir de droits fondamentaux qui est celui
à la fois symbolique et économique. Quoi.
C'est une puissance politique et symbolique forte, effectivement. Et ça a été le préalable vraiment à une opération qui, elle, relève de la spoliation. D'ailleurs, ce n'est pas les mêmes. On pourra en revenir, mais le séquestre et l'arianisation, ça renvoie à deux administrations différentes.
D'accord,
c'est un petit
précise,
peu compliqué. C'est-à-dire que
juridiquement, prends ton chapeau d'avocat.
Le séquestre a été géré par le ministère des Finances qui avait un service qu'on appelait le service de l'enregistrement des domaines et des timbres, alors que l'arianisation était gérée en particulier par une administration ad hoc qui s'appelait donc le Commissariat général aux questions juives.
Voilà.
Et ce qui était intéressant, c'est qu'on parle effectivement, oui, de Xavier Vallat, d'un regard français. Non, en fait, il y a des regards français sur le cas de Rothschild avec, bien sûr, des cas de tension à la fois entre les Allemands, on pourra en reparler, mais aussi entre les autorités françaises.
Ça,
c'est absolument capital. Après, je pourrais en dire des pages et des pages, mais ce qui est
intéressant. Il y aura un livre spécialisé.
Oui,
je
vais sortir très bientôt
un
ouvrage sur le vin de Bordeaux, effectivement, à l'épreuve du Second Conflit mondial. Les Rothschild ont
venir.
Une place,
prochaine séance.
Une place toute spéciale.
Alors, prenons à nouveau nos bottes et avançons cette fois dans la forêt, quittons le vignoble, et nous rejoignons le nord du bassin, chez les Wallerstein.
Oui.
Donc, parle-nous un peu de ces Juifs célèbres, mais de façon éphémère, comme toute célébrité, y compris celle des auteurs. Mmh. Eh bien, qui, eux, sont des forestiers.
Oui, alors, donc là, il faut dire que Hubert est un homme du bassin. Hein, donc, cette question.
Enfin, depuis peu.
Question, effectivement, était importante. Et il a été extrêmement sensible à une trajectoire absolument extraordinaire d'une dame assez âgée qui s'appelait Madame de Wallerstein, qui avait, donc, de confession juive, qui avait donc une propriété dans la région d'Andernos, entre Arès et Andernos, une grande propriété viticole, mais elle avait un rôle social absolument remarquable. Elle avait un établissement de santé, elle s'occupait effectivement, elle avait un rôle social vraiment remarquable. Si bien que ce rôle social extrêmement important, de même que son âge assez important, lui ont permis d'échapper, donc, non pas à l'arianisation, mais effectivement à ce qu'on puisse s'en prendre à elle en tant que personne.
C'était une cible.
Mais la forêt, effectivement, a été une cible. Et c'est là où c'est compliqué. Il était absolument interdit pour elle de posséder cette forêt, si bien qu'on lui a demandé, effectivement, de la vendre. Et c'est là où c'est compliqué, c'est que la cellulose du pin donc l'actuel Smurfit va...
Une filiale de Saint-Gobain à l'époque.
Filiale de Saint-Gobain à cette époque va récupérer une partie de même l'intégralité du bien forestier. Et là, on aurait tendance à porter un regard un petit peu âpre sur la stratégie de la cellulose du pain, mais à part que des discussions avaient eu lieu avant-guerre, dès 1937-1938. Et ça, c'est très important de porter son regard non seulement sur les années 40-44, mais essayer d'élargir le spectre chronologique et de voir que malheureusement, les années de guerre ont été un formidable accélérateur de la procédure. Alors, est-ce que la procédure aurait été jusqu'à son terme? Je ne le sais pas, mais en tout cas, elle avait une relation de confiance avec les patrons de la cellulose du pain, et ce qui fait que le contrat a pu se faire plus rapidement, je pense. Voilà, toutes les complexités de cette période-là.
Donc, je crois qu'on a fait le tour des actifs économiques, là. À confisquer, à arianiser.
Sans doute.
Je crois qu'on n'en a pas oublié.
Oh, mais après,
oui, non, mais on ne peut pas entrer dans le détail ce soir, même si les gens sont prêts à rester jusqu'à minuit. Bon, on a des communautés, on les a vues, on a des actifs. Bon, alors ce qui m'a toujours sidéré dans cette Seconde Guerre mondiale, c'est le propre des hasards, c'est que les Allemands passent leur temps à ne pas faire la guerre, si je peux m'exprimer ainsi. Un, ils s'occupent. Ils mettent des milliers de soldats, des dizaines de milliers à gérer, entre guillemets, déportation, extermination, génocide. Et d'autre part, ici, comme partout, il y a une administration qui ne combat pas, donc qui perd son temps à mettre sous séquestre, à arianiser. On parlera des Français après. Hein. Mais oui. Ça représente quoi, cette administration allemande qui est chargée d'arianiser, s'il te plaît?
Alors déjà, il faudrait parler déjà de l'administration allemande en général, qui relève, donc, qu'on appelle l'administration civile. Alors, je ne vais pas vous dire l'expression en allemand, mais ce qu'on appelle donc, le Militärbefehlshaber in Frankreich, donc le haut commandement militaire en France, qui était installé au Majestic. Et on estime que, bon an, mal an, l'ensemble des officiers et des non-officiers qui travaillaient pour le Majestic, pour la France, c'était environ 40 000.
Oui, c'est ça, sidérant.
40 000 pour une population qui en faisait 40 millions à cette époque-là. Et donc, si on devait estimer la puissance occupante, donc cette administration en Gironde, c'est plusieurs dizaines, peut-être à peine... C'est très difficile parce que les effectifs sont très mouvants, mais il faudrait parler entre 200 et 250...
Qui ne font pas la guerre.
Qui ne font pas la guerre, mais qui administrent.
Qui construisent la future Europe nazie, si je puis dire.
En quelque sorte, mais ce qui, forcément, même si on va en parler, pose avec acuité la question des relais, parce qu'ils ne peuvent pas se démultiplier.
Oui, et donc, on va voir ça après. Mais les Allemands, donc, ils sont où, là? Concrètement,
ils occupent tous les lieux centraux, l'hôtel de la préfecture en particulier. Après, ils se dispatchent littéralement sur l'ensemble de l'agglomération de Bordeaux. Vous avez donc l'administration qui est vraiment ici dans l'hypercentre, notamment une qui s'appelait la Feldkommandantur. Yeah. Après, vous avez tous les services policiers, notamment la SS, la SA, notamment la SS. Ouais. Les services étaient dans des châteaux au Bouscat. C'est-à-dire que non seulement il y avait des installations dans les bureaux ici même, mais les écoles aussi étaient réquisitionnées si nécessaire.
Des bureaux.
Pour mettre des bureaux aussi pour loger les personnes. Donc, ce qui fait que les écoles...
Ces Allemands, c'était des spécialistes, entre guillemets, des managers de l'économie allemande, mobilisés sous l'uniforme, ou c'était des militaires de carrière,
C'était effectivement... ils avaient tous un rôle éminent. Ce n'étaient tous, sauf des parvenus. Et même, ils aimaient à se faire appeler ainsi, ils se faisaient appeler docteur.
C'est-à-dire qu'ils avaient,
ils avaient effectivement le plus souvent des doctorats, voire même des doubles doctorats, et ils étaient envoyés parce qu'ils avaient une connaissance fine. Je pourrais multiplier les exemples, et notamment un, c'est-à-dire que ceux qui, notamment dans la région, alors là on sort du thème de l'organisation, mais celui qui était en charge de s'occuper du papier et du bois dans la région était lui-même un grand spécialiste le sujet.
Donc il connaissait le sujet.
Qui était établi à Berlin et qui connaissait parfaitement le sujet. Je pourrais aussi parler d'un autre grand, qui s'appelle Heinz Böhmers, qui était un importateur allemand. Donc, il a un rôle un petit peu, il est à l'extérieur de l'administration, même s'il doit rendre des comptes à l'administration allemande. mais c'est le prototype de la personne qui avait des relations.
Alors,
Heinz Böhmer était un très, très grand négociant allemand de Brême. Il a des relations décennales avec la place de Bordeaux dès la fin du 19e siècle. Ses parents, ses grands-parents, ils sont ici, donc il y a des relations étroites.
Avec Eschenauer, notamment.
Donc avec Louis Eschenauer, avec effectivement tout le patriciat, donc des Chartrons, donc avec les grands négociants. Et ce qui est pour lui l'occasion de revenir ici, faire des affaires, à part que la situation, bien évidemment, a changé.
Donc on ne peut pas trop les rouler, ces gens, ils connaissent le sujet, quoi.
Ce sont effectivement des observateurs avertis, mais qui ont quand même besoin de relais.
Mais on va y venir, là. C'est le prochain truc. Oui.
Donc, autre exemple qui est aussi pour moi important, c'est celui du commandant de la région. Il s'appelle Maurice von Fabert-Dufort et il a un rôle assez intéressant dans la mesure où il a de la famille en Charente. Et sa famille remonte même à la communauté protestante exclue du royaume de France à l'issue de l'édit de Fontainebleau de 1685. Et donc il a une famille, cousine, branche cousine en Charente, dans le nord Gironde, enfin en Charente sur, en Saintonge. Et il y allait régulièrement tous les étés leur rendre visite. Donc quand les Allemands se sont demandé quel grand administrateur, enfin on va nommer sur place, donc forcément ce nom s'est imposé.
Spécialiste des Français, si je puis dire, et des parpaillots locaux peut-être aussi. Bien, alors, les relais, tu veux en parler, il fallait en parler, bien entendu. Donc on a les Allemands, on sait que la France a collaboré, bien sûr, avec l'administration de Vichy. N'oublions pas tout de même que ce n'est pas la France libre, enfin la zone libre, pardon. La zone libre, ou la zone non occupée, c'est déjà une zone militaire dès le départ, donc l'emprise nazi est fort dès le départ, donc il faut d'avoir ça en arrière-fond déjà. Mais malgré cela, ce n'est pas les Allemands qui gèrent tout. Donc tu dis dans ton livre et dans ta thèse que l'administration française prend le devant, prend des initiatives, tu as parlé de décrets, c'est l'antisémitisme qui domine.
Ah oui, là je peux reprendre l'expression de l'historien Henri Rousseau qui avait parlé d'un antisémitisme d'État.
Oui,
et
très bien.
Et c'est tout l'enjeu, bon, je ne veux pas non plus lancer de polémique, mais quand j'entends ou je lis effectivement le suicide français d'Éric Zemmour, quand il parle effectivement, il ressort la théorie de l'État de Vichy en tant que bouclier de la population, il fait rentrer de la vraisemblance et de l'approximation dans le regard et de jeunes lecteurs ou de lecteurs qui ne sont pas avertis, alors que c'est absolument insupportable d'entendre cela 20 ou 25 ans après l'idée fondatrice de Robert Paxton, mais il n'y a pas que lui, hein. C'est-à-dire que c'est un grand historien américain, mais depuis, il y a une génération de 20 ans d'historiens, notamment de jeunes historiens.
Paxton, c'est 1972.
C'est 72, donc, et depuis, je pourrais les citer, Florent Lebeau sur le cuir, mais il y en a plein d'autres qui ont effectivement accompagné et encore une fois, aggraver la responsabilité archive à l'appui de Vichy. Bien évidemment qu'il y avait peut-être une pression allemande, et notamment ici, il y avait l'affaire de Kommandantur. La Kommandantur a eu un rôle important, mais ce qui est absolument formidable au sens propre, c'est-à-dire effrayant, c'est de se dire qu'il y avait des décrets qui ont été mis en place. Je pense notamment les premiers décrets d'octobre pour identifier... octobre 40,
oui,
excusez-moi. Donc c'est les tout premiers décrets pour dire qui était, qu'est-ce qu'une entreprise juive. Et en fait, si on avait simplement appliqué les ordonnances allemandes, certains entrepreneurs juifs y auraient échappé. Mais le problème, c'est que la loi française est allée au-delà de la législation allemande, et si bien que les entreprises qui auraient pu y échapper n'y ont pas échappé. Et comme disait un membre du CGQJ, il s'agit de mettre une souricière par où, effectivement, ils ne peuvent s'échapper.
N'oublions pas que le ministre de l'Intérieur qui signe les décrets de dénaturalisation, si je peux m'exprimer ainsi, et de perte de citoyenneté, le maire de Bordeaux, Adrien Marquet, ne l'oublions pas, ce n'est pas pour faire de la pub pour mon livre, mais il faut le dire tout de même, donc juste avant de partir, de quitter le ministère, donc et sans embâche. Donc on a une volonté, je dirais, un système antisémite, la pensée, la loi, le décret et l'action.
Et là, en fait, il y a un mot qui me vient, même deux, c'est le mot de convergence et de surenchère. C'est que là, on a des cas de surenchère systématique qui ne font qu'aggraver la stratégie allemande. Et ça, c'était absolument implacable. Et les Allemands, et notamment le Feldkommandant à Bordeaux, a parfaitement vraiment misé sur les bons acteurs. Et il ne va pas hésiter à s'appuyer sur le zèle macabre des acteurs locaux, je pense en particulier à la préfecture qui va se doter d'un service des questions juives dont les membres vont d'abord recenser les familles, les personnes, puis les biens meubles, les immeubles et les entreprises.
Alors, il était où ce service ? À la préfecture même ?
Oui, il me semble qu'il était rue Poquelin-Molière. Là,
Poquelin-Molière, bon, à côté.
C'était là.
Oui.
Absolument.
Je signale qu'un futur grand homme de l'université fait son stage de licence, il s'agit d'un grand professeur, d'un petit licencié à l'époque, premier une grande carrière, qui fait son stage ici sous la direction de Roger Bonnard, grand professeur et même président de l'université.
Je vous ai tendu une perche, mais je n'ai pas voulu la saisir.
Et par conséquent, c'est un petit peu gênant de voir qu'on pouvait faire son stage d'étudiant au commissariat aux affaires juives, quoi, rétrospectivement. Mmh. Mais bon, l'université n'a pas été exclue de ces réseaux antisémites, je dirais. C'est la banalité qui me choque, parce qu'il y avait des fonctionnaires, là, donc d'État, c'est la banalité. Je veux dire, on a le fonctionnaire qui s'occupe, de l'État civil, le fonctionnaire. Qui s'occupe de la gestion des vivres. Et puis, on a des gens qui s'occupent de la gestion des juifs et des biens juifs.
Oui, donc là, je reprends ce que je disais concernant le relais de la préfecture, notamment en décembre 1940. La Feldkommandantur a demandé à la préfecture de mettre en place une commission de recensement des entreprises juives. Et là, c'est à ce moment-là où, encore une fois, en mettant peut-être en mouvement des liens qui existaient avant-guerre, dans la mesure où la préfecture de la Gironde n'était pas forcément dotée de tous les services et de tous les fichiers nécessaires, a constitué une commission tripartite de recensement où il y avait bien évidemment des représentants de la préfecture, mais aussi ceux de la Chambre de commerce et de la mairie de Bordeaux.
Oui, la Chambre de commerce, oui.
Et la Chambre de commerce, c'est un autre relais absolument essentiel, s'il ne faut pas, non, faut la rétablir dans la bonne place dans la procédure.
On va y venir. Mais l'administration.
En tant que l'administration, donc la mairie, même si la mairie a eu un rôle à jouer, c'est que tout simplement Bordeaux, dans la communauté du sud-ouest aquitain, donc la communauté de Bordeaux avait un rôle important, c'est-à-dire que quasiment 4/5 des dossiers de spoliation et d'arnisation dans le sud-ouest aquitain étaient en fait des dossiers
dans la ville.
Voilà.
D'accord.
Entre les trois, le rôle clé, c'était incontestablement, les archives sont claires de ce point de vue-là. Les archives étaient claires de ce point de vue-là. Oui. Parmi cette commission tripartite, c'était la préfecture qui avait un rôle clé.
Des fonctionnaires, donc. Ouais. Et donc, tu veux dire par là que des gens allaient faire de l'arianisation comme d'autres allaient gérer, je ne sais pas, les héritages Et ce n'était pas des volontaires, donc c'était...
Si on parle de...
Ce n'est pas de l'exception, quoi.
Non,
régime d'exception.
Même si c'est compliqué à expliquer, mais c'était une situation d'exception qui a été complètement légalisée. Donc, il ne faut pas... Des personnes vont ainsi pouvoir profiter de ce cadre légal. Ça peut paraître un petit peu étonnant, mais
oui,
c'était un cadre légal. Et ils vont se faire ainsi la spécialité d'éplucher des annonces. Ça sous-entend que dans la revue, donc pour moi, la presse a été une source importante. Il ne faut pas hésiter, même si ça peut effectivement choquer quand on lit ça, notamment quand on est un jeune historien, de voir des annonces concrètement passer avec des annonces à la fois la petite Gironde, qui est l'ancêtre du sud-ouest, des annonces de spoliation la procédure et d'arrianisation. C'est-à-dire qu'on est à la recherche de propriétaires dits ariens, même s'il y avait des nouvelles qui se faisaient forcément, qui circulaient donc de bouche à oreille, entre des oreilles averties. Là, je ne vais pas trop en dire parce que ce n'est pas mon champ de spécialité, mais pour les domaines immobiliers, les notaires aussi ont eu un rôle important.
On va venir après à la vente des biens. Là. Ne nous courons pas trop vite. Et donc, les Allemands, l'administration, très bien. Et alors, parlons de la Chambre de commerce, en effet.
Les Chambres de commerce. Parce qu'il y avait
Libourne. Libourne, voilà, on a deux, ça j'oublie toujours. Et donc, la Chambre de commerce, je rappelle, ce sont des élus, entre guillemets, un bureau. Et des grands notables, mais aussi des petits commerçants qui élisent un tiers des membres du bureau. Alors, cette Chambre de commerce, dans l'histoire de la Chambre de commerce, faite pas jadis par Georges Dupeux, Butel et Jean-Claude Drouin, il n'y a pas grand-chose sur cette période 40-44. Mm-hmm. Alors, qu'as-tu à ajouter là-dessus ? Elle a joué un rôle moteur, elle a joué un rôle de dénonciation, elle disait « non, je connais bien les Juifs ». Il y a des passages dans ton livre qui ne sont pas ambigus pour toi, mais qui sont ambigus pour la Chambre de commerce.
Oui, c'est
comme si ça allait enlever un peu de concurrence que d'enlever de l'économie juive.
Oui, absolument. C'est-à-dire que parmi donc, le représentant de la Chambre de commerce dans la commission tripartite s'appelait Henri Naza, qui était un vice-président de la Chambre de commerce et qui était le vice-président du syndicat donc, de chaussures à Bordeaux. Et malheureusement, j'ai vu un compte-rendu où il dit fermement qu'il allait participer avec zèle. Donc qu'il va tenter d'ôter l'influence juive au sein du tissu économique de Bordeaux. Et donc, ils vont utiliser le fichier consulaire, même si ce fichier consulaire n'était pas forcément renseigné pour l'identité juive et ce qui est, ou religieuse, c'est pas son rôle. Mais ce qui est incroyable, c'est que depuis, donc, vous voyez bien un petit peu le cheminement, c'est-à-dire préfecture qui sollicite la Chambre de commerce. Et la Chambre de commerce, dans la mesure où ses propres fichiers sont lacunaires, vont mettre en mouvement l'ensemble du tissu syndical, et notamment en décembre 1940.
Oui, par branche.
Par branche, ils vont envoyer des lettres circulaires à tous les présidents des syndicats patronaux de Gironde, leur demandant de faire remonter leur liste d'entrepreneurs dits juifs. Mais il y en a certains qui vont le faire très volontiers, notamment le syndicat des forains. Ça a été assez aussi étonnant de lire ça. Et on voit clairement, et ça a été souligné par notamment Florent Lebeau dans sa thèse sur le cuir, clairement, ça a été l'occasion pour cela de se débarrasser de concurrents gênants avant-guerre. Donc ils ont profité. Donc là, on voit vraiment que l'occupation révèle le pire hein, chez certains girondins ou français de l'époque. Et donc, il y en a qui ont, notamment dans la fourrure, j'ai notamment une femme donc, que je cite dans le texte, parce que je la cite par ailleurs dans ma thèse, pas forcément pour l'organisation. Ça reste une histoire incarnée. Donc, il faut que. Et là aussi, on voit qu'ils en profitent effectivement pour se débarrasser de ces concurrents, en sachant qu'ils espèrent deux choses. Soit la liquidation. Soit la liquidation de l'entreprise et donc les stocks, on en fait quoi? Donc ils voudraient récupérer donc, les stocks. Et donc notamment, là, j'ai plusieurs cas où des personnes qui récupèrent de la soie, de la fourrure.
L'actif circulant.
L'actif ouais. circulant. Mais bon, ouais. moi, c'est,
je voulais ça, pas c'est du court terme.
Employé. Et d'autres qui en profitent pour
du vol, quoi.
S'étendre, c'est-à-dire pour, ouais. pour racheter l'entreprise. Donc il y avait soit l'organisation, soit la liquidation. C'est-à-dire qu'on efface tout, c'est-à-dire qu'on les enlève, on les raye du registre de la Chambre des métiers, de la Chambre de commerce. Et donc il y a vraiment une sorte de damnatio memoriae. On veut vraiment faire en sorte de les effacer de la mémoire économique et même du tissu humain de Bordeaux. Mais je reviens au syndicat. La plupart, j'en ai un, le syndicat général du bâtiment en Gironde. C'était une lettre qui était très claire, mais il y avait un sous-entendu en creux qui lui fait dire « Bon, t'es bien gentil, mon loulou, mais j'ai pas du tout parmi mes adhérents, mais tu peux te... Genre, il n'est pas question que je te donne ça, d'autant que c'est une information que je n'ai pas. »
Donc, il y avait tout de même l'esprit... si je puis dire, citoyen républicain, c'est qui très, était préservé c'est, chez certains.
C'est très compliqué dans la mesure oui, où ce n'est pas palpable dans les archives. Alors, il fallait que je pénètre leur cerveau. Et dans ce cas-là, les archives sont de ce point de vue-là impuissantes. Et je n'ai pas eu de témoins directs, j'entends. Alors, il y a environ une soixantaine de syndicats qui ont été sollicités par la Chambre de commerce et 45 qui ont répondu quand même. Par la négative ou la positive. Et toutes ces listes ont été après traitées, analysées par la Chambre de commerce lors d'une réunion capitale qui s'est tenue à la fin décembre 1940 dans les bureaux du syndicat des négociants en vin de Bordeaux. Et là, on voit que les biens ont été recensés à peu près 320 ou 330. Et là, c'est le premier rôle. Vous l'avez, la Chambre de commerce, avec la Chambre de commerce de Libourne. C'est le rôle du recensement. Mais ceci ne se vérifie pas ailleurs. C'est assez exceptionnel. C'est-à-dire que j'ai pu essayer de voir dans d'autres régions, d'autres historiens que j'ai pu contacter. C'est assez exceptionnel. Mais un rôle que les chambres de commerce ont eu à peu près partout en France, plus tard en zone libre, mais surtout en zone occupée, ouais. en zone dite libre, absolument. Ouais. Donc en zone occupée, c'était en fait de renseigner la fiabilité des futurs administrateurs provisoires. C'est-à-dire que les ventes des biens étaient gérées en attendant leur liquidation ou leur vente, étaient gérées par des AP, par des administrateurs provisoires. Ouais. Et pour vraiment avoir affaire à un personnel idoine et compétent, le plus souvent, c'était les chambres de commerce qui renseignaient cela.
On va voir ça, là,
donc, elles n'ont pas un rôle central, comme ouais. a pu l'avoir la préfecture, mais sa responsabilité d'accord. est réelle.
Bien. Voilà. Alors, je suis... Excusez-moi de faire une histoire un peu macabre, c'est le cas de le dire. Je suis israélite, j'ai un gros magasin de fourrure Je suis en 40 encore, en 42, mon sort est un peu aléatoire peut-être. Mais qu'est-ce qui m'arrive, quoi ? Comment ça se fait ? Comment on prend mon bien ? Concrètement, il y a la loi, les hommes, et concrètement, je suis dans mon... Voilà, c'est le magasin de fourrure. Que se passe-t-il concrètement le mercredi 5 octobre 40 ou,
ce qui est incroyable, c'est que j'ai très peu vu, alors c'est un mot un petit peu bizarre, de contraintes présentielles, physiques. Ouais. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de personnes qui sont venues physiquement. Et il y a une forme de... c'est-à-dire que concrètement, ils étaient, certains ne bougeaient pas. Et ils étaient assez rares. Et notamment, ils ont dû malheureusement s'adapter sous l'effet de délation. Mais la plupart, je dis bien la plupart, ont mené eux-mêmes leurs opérations. Et c'est une expression qui peut paraître un petit peu bizarre.
Ils ont rempli les formulaires.
C'est-à-dire que ce n'est pas cela. C'est-à-dire qu'il y a eu, des recensements. Il y a eu une obligation de recensement, d'abord. D'abord, ils ont dû, dès le juillet-août 1940, ils ont dû recenser leur famille. Donc là, et après, ils ont eu, là, c'était une ordonnance du 18 octobre 1940. Oui, là, c'est le recensement des entreprises et des biens. Et là, c'était, on leur adressait forcément. Et donc, il y avait, à mon avis, des systèmes de contrôle. Mais la plupart ont répondu sans forcément peut-être présager de ce qui pouvait arriver.
Alors, deuxième étape.
La deuxième étape, ensuite, on leur signifiait donc, avec, à mon avis, une décision préfectorale.
Oui. Arbitraire, quoi.
Arbitraire. Et à mon avis, soit du préfet, soit du ministère de l'Intérieur, on leur signifiait donc l'arrêt de la production. Mais ce qui est assez incroyable, et qui montre une extraordinaire dignité au sein de la communauté juive, c'est que certains ont fait preuve de sens de l'anticipation. Et donc, je reviens à cela, on menait une auto-arianisation. Il ne faut surtout pas prendre cela comme un signe de faiblesse, mais au contraire comme un signe de courage et de prise en main, effectivement, de leur destin économique. Ça veut dire qu'ils voulaient absolument, mener les opérations à bien eux-mêmes. Ils ne voulaient pas laisser ça à des mains tiers qui auraient pu complètement démanteler ou mal gérer la chose. Et en fait, dans ce cas-là, ils mettaient en place des opérations, ils revendaient des actifs, en particulier des parts sociales, dans des mains. Alors, est-ce que c'était des mains complices ? Et c'est là où il y avait des enquêtes extrêmement sévères menées à la fois par les Français et les Allemands.
J'avais posé cette question sur les hommes de paille. Y en avait-il, alors ?
Oui, effectivement. Il y avait des hommes de paille. En fait, c'était des personnes qui étaient là.
Des Ariens.
Des hommes de paille, des Ariens. Mais en fait, je pense en particulier ici, un exemple qui s'impose à moi, vu sa proximité géographique, c'était le groupe de Vachter, avec la maison Grand en quartier, où la famille d'Acunia-Castel ont remis effectivement tous leurs actifs et la propriété légale et juridique de l'entreprise et même du groupe à leur chef du service des ventes. Il s'appelle Ernest Pouy, il me semble.
Donc un Arien.
C'était lui un Arien, parce que voilà.
Mais c'était dans ses considérations.
C'était un Arien, mais dans la mesure où il y avait une proximité à la fois amicale, mais aussi une proximité dans l'entreprise.
Professionnelle,
forcément. Donc il y a eu une série d'enquêtes. Mmh. Et ce qui était incroyable, encore une fois, on rentre dans le mot de la convergence et de la surenchère. Mmh. Quand les Allemands disaient « Ok, c'est bon, la session est bonne », il y avait la préfecture qui se disait « On va quand même y rejeter un petit coup d'œil pour voir si, effectivement, il n'y a pas des choses qui... » Et inversement, quand la préfecture a estimé que le transfert s'est fait de manière complètement légale par rapport aux lois de l'époque, les nazis, avec la Feldkommandantur, disaient « Mais on va quand même essayer donc de remettre... »
C'était contrôlé, toi.
Et donc, ce surcontrôle, cette surenchère faisait qu'on avait affaire à un dispositif absolument implacable.
Mais là, dans l'affaire de Vachter Grand Quartier, alors, ça s'est fait ou non ?
Ah oui, là, j'appelle ça une sorte d'auto-arianisation sauvetage. Et je suis heureux de vous dire, il y en a très peu, malheureusement, ils se sont fait gruger. C'est-à-dire que les autorités vichistes et nazis se sont fait gruger. C'est-à-dire que cet Ernest Pouet a pu mener, bon an, mal an, l'exploitation à son terme. Et ça a pris du temps, parce que la procédure était longue, mais la restitution s'est faite en 1945.
On verra après la libération. Ah, ouais, ouais. Donc,
45.
Là... Ouais, ouais. Donc, il y a des hommes de paille pour certaines affaires, mais sinon, si je ne trouve pas d'hommes de paille, mon magasin de fourrure rue Porte des Jaux, il est pris par qui, quoi ? Comment ça se passe concrètement ? Tu as parlé d'appel. Comment transmettons la gestion de mon magasin de fourrure ? À qui, comment ?
La procédure, elle est longue et fastidieuse.
Il y a un administrateur provisoire, donc.
Donc, l'administrateur provisoire est là, comme son nom l'indique, pour gérer provisoirement le bien, avec un double objectif. Enfin, c'est soit l'un, soit l'autre, soit la liquidation, soit la vente.
Liquidation, c'est-à-dire ?
La liquidation, c'est la fermeture pure et simple de l'établissement qui n'existe plus comme entité juridique.
Et que devient mon pas de porte, alors ?
Pardon ? Mais donc, du coup, il peut être, à mon avis, il peut être laissé en l'état, il peut être vendu. Notamment, j'ai un exemple absolument effroyable de la fourrure Sasson, cours de l'intendance, dont les locaux ont servi au mouvement MRP, qui était le mouvement républicain populaire, il me semble, qui était un groupe... Un groupe néofasciste, genre PPF, donc qui ont occupé ces lieux-là. Mais les lieux peuvent être vidés et laissés comme ça, sans
vide,
autre.
Voilà. D'autant plus que l'économie était parfois pas prospère. Donc, fermeture complète.
Il n'y avait pas de fermeture. Vraiment, c'était soit la liquidation complète, soit la vente.
Oui.
Et dans ce cas-là, il y avait toute une procédure extrêmement complexe où l'intéressé devait remettre. Des documents à la fois à l'administration locale, à la préfecture, à l'administration centrale.
Il y avait des
effectivement, alors c'est compliqué de savoir comment ils étaient informés. Il y avait deux possibilités, soit par le bouche à oreille, notamment par le réseau, si notamment ils étaient. Et malheureusement, vous avez des responsables syndicaux qui étaient très bien placés, qui se sont servis, ou alors par des offres complètement légales qui apparaissaient dans la presse spécialisée de vente de biens immobiliers. Mais dans la mesure où c'était un écrin légal, macabre, mais légal, c'était effectivement cette procédure se mettait en place. Et ils devaient fournir, donc je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais une multiplication de papiers qui montraient leur fiabilité financière, leur assise financière, et de multiples certificats, et notamment un certificat d'arianité.
Et globalement, c'est un peu sordide, on est dans les temps, hein, surtout. Globalement, toutes les opérations qui devaient être faites, entre guillemets, ont été réalisés. Je ne sais pas trop ce que j'ai perçu dans ta thèse et dit dans le livre, tout de même. Tu parles tout de même de délais.
Il pouvait y avoir des délais dans la mesure où des contrôles pouvaient être faits, non pas en 40 ou 41, mais il y avait des contrôles très, très réguliers qui se faisaient, notamment si la vente se faisait dans des conditions estimées douteuses. Des contrôles se font en 42, en 43. J'ai même eu des rapports d'AP qui se faisaient en juillet 1944.
Très tard.
Très tard. Mais les opérations... les autorités allemandes parlaient de liquidation volontaire, c'est-à-dire l'auto-arcanisation. J'ai eu des archives allemandes, cette fois-ci, effectivement, en allemand, qui sont conservées à la fois à Paris et à Fribourg, en Brisgau, en Allemagne, où, notamment pour les commerces, à peu près 75% étaient fermés les semaines qui ont suivi, donc dès le mois de janvier-février 1941. La place donc des Juifs dans le tissu commercial était quasiment réglé de ce point de vue-là. Donc il y avait une forme d'efficacité qui, et là encore une fois, j'ai vu ça dans les rapports, dont se félicitaient les autorités allemandes. Et j'ai vu des lettres dans les archives préfectorales et celles aussi de la Chambre de commerce, où vous aviez les Allemands qui félicitaient les autorités françaises, quelles qu'elles soient, professionnelles, préfectorales, de leur efficacité.
Alors une autre question sordide, malheureusement, ou macabre, pour retourner son truc. Novembre 42 et les mois qui suivent, des rafles. Donc, est-ce que les rafles et donc les déportations ont contribué, si je puis dire, à accélérer le processus ?
Oui, incontestablement, ça a été une accélération. Je prendrai un exemple qui est intégré dans les annexes. Je pourrais même prendre le temps de vous le lire parce que c'est extrêmement bref.
C'est toi qui parle.
Parce qu'il faut que je leur rende hommage. C'est le témoignage de M. Milang qui a été recueilli le 28 novembre 2005 par Mme Mélinon et M. Charlier, qui est un collègue prof d'histoire-géographie à Libourne, qui travaille à Libourne dans l'association Souvenir Myriam Herrera. Et là, on voit que la déportation et la prédation économique, en fait, sont la même chose. Et en fait, c'est la dernière phrase de son témoignage qui est extrêmement intéressante. Je me permets de le lire, je pense que c'est...
Oui,
Au début de l'année 1944, je travaillais dans un atelier de menuiserie, rue Lataste, à Libourne, chez Audebert. J'avais 17 ans et je m'y trouvais depuis juillet 1942. Nous y fabriquions des armoires pour les soldats allemands. J'avais cependant l'esprit contre l'occupant, en ayant participé au sabotage d'un wagon et en faisant le passeur de faux papiers. Je connaissais des familles israélites de Libourne, par exemple Madame Peydenis, qui habitait en face de l'atelier de sa mère, Madame Torres, et encore la famille Moreau, dont le fils, André, marié à la fille du menuisier Grand, était caché chez M. Audebert. Le jour de la rafle, à savoir la terrible rafle de janvier 1944.
Vers la fin, là, oui.
Le jour de la rafle, deux jeunes garçons qui habitaient à l'angle de la rue d'Escorbes ont été embarqués. J'ai été témoin du transfert à la gare de Libourne des personnes raflées. Je me trouvais au bar chez Jarry, en compagnie des propriétaires. J'ai vu le groupe débarquer d'un camion qui s'était arrêté devant la gare, à proximité du passage donnant sur les voies à gauche du bâtiment. Les gens raflés étaient encadrés, malmenés, poussés par des soldats allemands en armes vers un train de wagons à bestiaux. Je rajoute que les stocks de tissus de Mme Paydenis ont été récupérés par un gros commerçant de la rue Gambetta.
Donc les rafles ont pu parfois
accélérer les choses. Dès l'instant que cette déportation donc physique s'accompagnait effectivement de la perte des affaires, forcément il y a un vide et l'économie, il y a encore du vide, certains en ont profité. Et j'insiste effectivement sur le fait, je parle de la spoliation des entreprises dans la mesure où j'ai fait une thèse sur les entreprises juives, sur les entreprises, et j'ai fait un chapitre entier sur les entreprises juives. Mais j'insiste, je n'ai pas travaillé par exemple sur la spoliation des immeubles, mais ça n'a rien derrière l'ultime spoliation qui est celle de la vie. Ça, j'aimerais insister encore
une fois. Alors, justement, je suis désolé, le temps passe, et la guerre aussi, si je puis dire, l'occupation aussi. Donc, arrivons-en à la libération de Bordeaux. On a d'autres chats à fouetter sur le moment, mais on est, mettons, début 1945.
On peut commencer à septembre 1944.
Il
y a des choses.
Alors, il y a deux aspects. Là aussi, c'est un peu macabre. Donc, il y a des Israélites qui rentrent. Bon, il faut du temps pour qu'ils rentrent. On l'a vu, ça prend. Il y a eu l'an dernier des émissions. Ça a pris parfois 6 mois, 9 ou 10 mois. Leur état de santé, tout ça. Enfin bon. Donc, on a ceux qui rentrent, les survivants déportés, ceux qui étaient restés, etc. Bon, je reprends mon magasin de fourrure, rue Porte-Dijot. Je veux le récupérer. Comment ça se passe, donc ?
C'est compliqué.
Oui.
C'est long, dans la mesure où il faut rétablir une légalité républicaine et détricoter un dispositif législatif qui avait une existence légale, encore une fois, sous l'occupation, le fameux vol légal du juriste Lyon-Camp. Ouais. Et en fait, il a fallu mettre en place de nouveaux acteurs. Et c'est là où tout commence dès septembre 1944.
Très tôt,
c'est-à-dire que toutes les organisations qui étaient liées à la spoliation, notamment les services des questions juives, les services du commissariat général aux questions juives, ont toutes été liquidées. Elles ont été réunies dans un service qu'on appelait le service des séquestres, en fait. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'à la tête de ce service des séquestres, il y avait un monsieur qui était un grand fonctionnaire du ministère des Finances. Or, dans les archives, j'ai pu voir qu'il était sous l'occupation un administrateur provisoire de biens juifs.
C'est-à-dire que là, les spécialistes de l'aryanisation, ne me fait pas dire ce que je vais dire, mais je vais le dire, sont venus les responsables des aryanisations. Non, tu ne vas pas dire ça, toi-même.
Non, ce n'est pas ça. C'est-à-dire qu'ils ont pris, à mon avis, cet homme-là était, à mon avis, un haut fonctionnaire averti. Et je ne connais pas les raisons, les archives ne sont pas. Mais c'est une trajectoire, malheureusement, qui est classique, à savoir celle de fonctionnaires de Vichy qui sont réutilisés dans la police.
On a vu la police,
de ce point de vue-là. Et aussi étonnant que ça puisse paraître, les administrateurs provisoires ne vont pas être dissous. Ou plus précisément, on va tous les licencier et on va en nommer d'autres.
C'est qui le « il »
Là, c'est le gouvernement provisoire de la République française.
Et son représentant. Le commissaire de la République.
Le commissaire, donc, Gaston Cusin, qui a des consignes extrêmement, extrêmement fermes. Il veut que ça aille vite, même si c'est compliqué, dans la mesure où il y a...
Son secrétaire général ?
Pardon ?
Mais son secrétaire général ?
Oui, son secrétaire général, effectivement.
Maurice Papon ?
Maurice Papon, absolument. Qui entre...
Tu changes de casquette ?
Oui, absolument. Il était aussi un petit peu en charge de l'épuration, ce qui est assez cocasse.
Enfin, mais bon,
c'est un autre sujet. Mais donc, cette procédure-là, ce qui fait que ces nouveaux administrateurs provisoires étaient là, effectivement, eux aussi, ils ont été extrêmement surveillés pour voir s'ils faisaient bien leur travail. Mais il y en a qui ne voulaient pas attendre. Et notamment, j'ai des cas, c'est le cas notamment de Marcel Castel d'Acugna, qui débarque dans le bureau justement de cette haut fonctionnaire, accompagné par un FFI, en plus. Donc, ce qui est plutôt bien. Et il demande à ce qu'il ne sorte pas, il ne veut pas sortir du bureau jusqu'à ce qu'il récupère un papier signé de Gaston Cusin.
Je peux revenir dans mon magasin voilà, de fourrure.
C'est ça, avec une sorte de papier qui attesterait de sa restitution officielle. Mais la procédure est longue et fastidieuse. Dès l'instant que, je vous rappelle, des hommes et des femmes sont là physiquement encore pour pouvoir être en capacité de le demander.
Encore plus sordide que je l'étais, mais je suis mort à Ravensbrück. Que devient mon magasin de fourrure ? C'est-à-dire que deviennent les biens spoliés, non réclamés, si je puis dire.
Là,
je ne sais pas si tu peux, c'est difficile.
C'est très compliqué.
C'est très macabre. C'est très difficile.
C'est une question absolument essentielle et c'est une forme de grande frustration intellectuelle pour moi, dans la mesure où les archives n'ont pas parlé parce qu'elles sont. D'accord. Elles sont très peu nombreuses. Les archives de la restitution, les archives de la restitution. En fait, malheureusement, très peu de personnes ont sollicité les restitutions. Et donc ça n'a pas créé beaucoup d'archives. Et les dossiers m'ont manqué de ce point de vue-là.
D'accord.
Mais je sais à quel point cela a été, de ce point de vue-là, compliqué de rentrer dans ce...
Oui, c'est pour ça, c'est un peu macabre. Bon, les gens survivaient, ils avaient peut-être autre chose à faire, mais enfin, il fallait bien qu'ils gagnent leur vie, si je puis m'exprimer.
Oui. Et qu'est-ce qu'il venait, effectivement, des néo-propriétaires ariens qui ont profité, donc qui sous l'occupation, se sont retrouvés propriétaires d'une entreprise, d'un immeuble? Je n'ai pas vu dans les archives de loi rapide, de décision disant qu'ils devaient de suite quitter leur établissement. Donc ça veut dire qu'il y en a qui ont continué effectivement à mener leurs opérations économiques jusqu'à ce que la loi, mais en fait, cette procédure, on ne se rend pas compte, mais elle est encore largement active aujourd'hui. Hein.
Ah bon.
Je pourrais vous citer un exemple. J'ai participé il y a quelques mois à un documentaire qui s'appelle « Les raisins de la guerre » sur Planète Plus, qui s'appelle donc « Les raisins de la guerre » d'Emmanuel Amara. Donc on a discuté ensemble. Et il me dit, il a appris que je sortais un bouquin sur la spoliation des biens juifs. Et donc il me dit, moi, ma famille s'appelle les Naxara à Bordeaux. Et je lui dis, Naxara, c'est un nom qui me disait quelque chose. Et comme j'ai tenu à avoir un index très détaillé dans l'ouvrage, index de lieux et de noms, on allait voir ensemble, donc, si je parlais des Naxara, c'était le cas. Et comme je cite beaucoup d'archives, je suis navré, 600 notes d'archives dans ce bouquin, parce que pour moi, vraiment, la rigueur historique était extrêmement importante. Du coup, il a pu voir les références des archives qui sont conservées à Paris, la sous-série AJ38, qui est les archives du Commissariat général aux questions juives. Et à mon avis, je ne veux pas présager de sa procédure, mais il peut très bien, il existe toujours, je crois que c'est au ministère de la Justice, un service qui est consacré aux demandes de restitution.
C'est toujours en cours.
Même si ce sont des enquêtes plus historiques que juridiques et qui entraîneraient les demandeurs dans les arcanes des archives.
Je sais ce que tu vas répondre, mais il faut poser la question. Aujourd'hui, le crâne du comité des représentations des Noirs demande une indemnité pour l'esclavage et le transfert des Noirs d'Afrique. Est-ce qu'il y a eu un processus d'indemnisation des Israélites dont les biens auraient été mis sous séquestre ?
Oui, oui.
Est-ce qu'il y aurait eu un processus ? C'est macabre, bien sûr, c'est pas ça qui va...
Je renvoie, parce qu'il faut les citer dès l'instant qu'on est enregistré, que ça peut éventuellement... Un travail remarquable d'un historien français qui enseigne en ce moment à Manchester, qui s'appelle Jean-Marc Dreyfus, qui a fait un ouvrage sur les restitutions. Et son titre s'appelle « L'impossible réparation ».
Oui.
Et
vas-y, développe.
Et donc, il parle notamment ici de la difficulté. La RFA a mis en place au début des années 1950 un dispositif exceptionnel d'indemnisation des victimes qu'on appelle la loi dite Brugge, et qui visait à indemniser donc là, financièrement les familles victimes, en Europe occupée en tout cas, de la barbarie nazie. Donc la réponse est oui, mais est-ce qu'il s'agissait d'une indemnisation des opérations de spoliation ? C'est leur statut de victime qui était reconnu.
Oui.
Et ta comparaison est à la fois limitée et intéressante avec effectivement l'autre grande charge émotive qui est le passé négrier de Bordeaux. Et ce qui est bien, c'est que j'en ai parlé à mes élèves il y a quelques jours de la mémoire et de son indemnisation, de la réparation en fait. Là, c'est vrai que la réparation matérielle, financière peut être un préalable, mais elle est extrêmement compliquée parce qu'il faut vraiment ici rentrer dans les archives. Pour le cas du XVIIIe siècle, là, on est plus dans une enquête historique qu'une enquête juridique, même si c'est sous couvert d'une procédure juridique. Est-ce que la réparation morale, est-ce que le fait de, par exemple, supprimer des noms des villes de Bordeaux, de Nantes, tous les noms d'anciens négriers, ou de débarrasser des places ou des noms de rues ici, des noms des collaborateurs, je pense qu'on a fait à peu près le tour en ce moment ici à Bordeaux. Le fait d'assumer ça avec une politique mémorielle, avec des stèles, avec des plaques, est-ce que cette réparation morale peut satisfaire les victimes ? Ça, je ne le peux pas.